6 août. Le véritable révolutionnaire. La vérité n'est pas pour les gens respectables, ni pour ceux qui cherchent à se prolonger et à se réaliser. La vérité n'est pas pour ceux qui ont soif de sécurité, de permanence. Car la permanence qu'ils recherchent n'est que l'envers de l'impermanence. Pris comme ils le sont dans les filets du temps, ils se raccrochent à ce qui est permanent. Mais la permanence qu'ils recherchent n'est pas le réel, puisque ce qu'ils cherchent est le produit de la pensée. Donc, tout homme soucieux de découvrir la réalité doit cesser de chercher, ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent se satisfaire de ce qui est. Au contraire, celui qui est déterminé à trouver la vérité doit être en lui-même un révolutionnaire accompli. Il ne peut appartenir à aucune classe sociale, à aucune nation, à aucun groupe, ni à aucune idéologie, à aucune religion établie. Car la vérité n'est ni dans le temple, ni dans l'église. La vérité ne se trouve pas dans les objets nés de la main ou de l'esprit. La vérité ne voit le jour que lorsqu'on éloigne ces objets façonnés par la main et l'esprit. Et l'abandon de ces objets n'est pas une question de temps. La vérité vient à celui qui s'est libéré du temps, qui n'utilise pas le temps comme moyen de se prolonger. Le temps implique le souvenir de votre passé, de la famille, de la race, de votre caractère et de l'accumulation de vos expériences. Toute cette mémoire qui constitue le moi et le mien. C'est tout. Voir la vérité dans le faux. Il peut se faire que vous soyez superficiellement d'accord lorsque vous entendez dire que le nationalisme, avec tout son impact émotionnel et les intérêts qu'il défend, mène à l'exploitation et à l'opposition des hommes entre eux. Mais délivrer réellement votre esprit de la petitesse du nationalisme est une toute autre affaire. Se libérer non seulement du nationalisme, mais aussi de toutes les conclusions des religions établies et des systèmes politiques en place, est une chose essentielle si l'on veut avoir un esprit jeune, frais, innocent, autrement dit en état de révolution. Et cet état-là est le seul à pouvoir créer un monde nouveau, contrairement aux politiciens qui sont morts et aux prêtres empêtrés dans leur propre système religieux. Donc, heureusement ou malheureusement pour vous, vous avez entendu une parole vraie. Mais si vous ne faites que l'entendre sans qu'elle ne vous dérange de manière suffisamment agissante pour que votre esprit commence à se libérer de tout ce qui le rend mesquin et tortueux, alors la vérité entendue deviendra un poison. En vérité, telle l'infection rongeant peu à peu une plaie, la vérité se change en poison si, une fois entendue, elle reste inactive dans l'esprit. Mais découvrir par soi-même ce qui est vrai et ce qui est faux, et voir la vérité dans le faux, c'est permettre à cette vérité d'opérer et d'engendrer sa propre action. Huit août. Comprendre le fait réel. Ce n'est pas vraiment complexe, bien que cela puisse être difficile. C'est que, voyez-vous, nous ne commençons pas par le fait réel, par ce que nous pensons, faisons ou désirons. Nous commençons par des suppositions ou des idéaux qui n'ont rien de réel, et c'est pour cela que nous nous égarons. Si l'on veut partir de la réalité et non de suppositions, il faut être extrêmement attentif. Et toute forme de pensée qui n'a pas le réel pour origine est une distraction. C'est en cela qu'il est essentiel de comprendre ce qui se passe réellement en nous et autour de nous. Si vous êtes chrétien, vous aurez des visions d'un certain type. Si vous êtes hindou, bouddhiste ou musulman, elles seront fonction d'un autre modèle. Vous voyez le Christ ou vous voyez Krishna selon votre conditionnement et c'est votre éducation. La culture dans laquelle vous avez été élevé, qui détermine les visions en question. Mais le réel, Est-ce la vision ou l'esprit qui a été façonné selon un modèle? La vision est la projection de la tradition particulière qui se trouve constituer l'arrière-plan de l'esprit. C'est ce conditionnement et non la vision qu'il projette qui est la réalité, le fait. Il est simple de comprendre le fait réel, mais cela est rendu difficile par nos préférences et nos aversions, par notre condamnation du fait en question, et par les opinions et les jugements que nous portons sur ce fait réel. Se libérer de ces diverses formes d'évaluation, c'est saisir la réalité, comprendre ce qui est. Novut. Traduire les faits empêche de les voir. L'esprit qui se forge une opinion sur un fait est un esprit étroit, limité, destructeur. Vous et moi pouvons traduire le fait chacun à notre manière. Cette interprétation du fait est une malédiction qui nous empêche de le voir tel qu'il est et de pouvoir agir sur lui. Lorsque vous et moi confrontons nos opinions respectives à son sujet, cela n'a aucune influence sur le fait. Peut-être lui trouvez-vous des choses en plus. Vous pouvez percevoir en lui plus de nuances, de sous-entendus, lui accorder plus d'importance que je ne le fais. Mais le fait ne souffre aucune interprétation. Je ne peux donc pas me permettre la moindre opinion à son sujet. Le fait est tel qu'il est. Et l'esprit a beaucoup de peine à l'admettre. Nous ne cessons de le traduire, de lui attribuer des sens différents en fonction de nos préjugés, de nos conditionnements, de nos peurs, et ainsi de suite. Il suffirait que vous et moi puissions voir le fait sans émettre aucune opinion, sans l'interpréter, sans lui attribuer de signification, pour qu'il devienne beaucoup plus vivant. Non, pas plus vivant, le fait est là. Il se suffit à lui-même, rien d'autre ne compte. Le fait a alors sa propre énergie qui vous mène dans la bonne direction. Dizut. L'impermanence est le seul et unique fait. Nous essayons de découvrir s'il existe ou non un état permanent. Non pas ce que nous aimerions, mais le fait réel, la vérité à ce sujet. Tout ce qui nous entoure, intérieurement comme extérieurement, nos relations, nos pensées, nos sentiments, est impermanent et en fluctuation constante. Ayant conscience de cela, l'esprit recherche ardemment la permanence, un état perpétuel de paix, d'amour, de béatitude, une sécurité que ni le temps ni les événements ne peuvent détruire. C'est pourquoi il crée l'âme, l'atma, et les visions d'un paradis éternel. Mais cette permanence est engendrée par la non-permanence. Elle porte donc en elle les graines de cette non-durée. Il n'y a en définitive qu'une certitude, celle de la réalité de la non-permanence. Août. La quête insatiable de l'inconnaissable. Vous voulez que je vous dise ce qu'est la réalité? L'indescriptible peut-il être mis en mots? Pouvez-vous mesurer l'immesurable? Pouvez-vous retenir le vent dans votre poing? Si vous le faites, est-ce le vent? Si vous mesurez l'immesurable, est-ce le réel? Si vous le formulez, est-ce la vérité? Non. Car dès que vous décrivez ce qui échappe à la description, cela cesse d'être le réel. Dès que vous traduisez l'inconnaissable en termes de connu, il cesse d'être l'inconnaissable. Et pourtant, c'est ce à quoi nous nous évertuons. Nous cherchons inlassablement à savoir, dans l'espoir que la connaissance prolongera notre durée et nous permettra de capter l'ultime félicité dans une permanence. Nous voulons savoir parce que nous ne sommes pas heureux, parce que nous sommes usés, avilis par un misérable labeur. Et pourtant, Au lieu de nous rendre compte du simple fait de notre déchéance, de notre lassitude, de notre détresse, nous voulons fuir du connu vers l'inconnu, lequel, encore une fois, devient le connu, de sorte que nous ne pouvons jamais trouver le réel. août. La souffrance, un simple mot ou une réalité? La souffrance n'est-elle qu'un mot ou une réalité? Si c'est un fait, le mot, au point où j'en suis, n'a plus de sens. Il n'y a plus en moi que la perception d'une intense douleur. Par rapport à quoi? Par rapport à une image, à une expérience, à quelque chose que je n'ai pas. Si je l'ai, je l'appelle plaisir. Sinon, c'est la douleur. La douleur, la souffrance, existe par rapport à quelque chose. Ce quelque chose, n'est-ce qu'une abstraction habillée de mots ou est-ce une réalité? Il est important de savoir ce qu'il est. De même que la peur n'existe pas en soi, mais est toujours la peur de quelque chose, la souffrance est toujours en relation avec une personne, un incident, un sentiment. Me voici maintenant pleinement conscient de la souffrance. Est-elle distincte de moi? Ne suis-je que l'observateur qui l'aperçoit ou est-elle moi